Culte de la parole. Une émission où Pierre-Paul Delvaux vous propose une lecture cursive de l'Évangile de Jean avec José Willibald Michaud, moine à Maritsou. Parce que lire un grand texte, c'est être le propre lecteur de soi-même.
Bonjour à tous, au micro Pierre-Paul Delvaux, pour continuer avec le Père José Willibald Michaud, notre lecture cursive de l'Évangile de Jean. Je vous avais annoncé en dernière émission que nous allions aborder Nicodème. Eh bien, nous allons l'aborder aujourd'hui, mais avant, quelques petites précisions, un petit retour en arrière, d'abord pour situer les premiers chapitres de Jean, jusque y compris Cana, sur un espace de 7 jours, Père José.
Oui, je crois que là nous trouvons déjà le réflexe, l'habitude de l'évangéliste de respecter les rythmes septénaires. Jean aime le chiffre 7. Et curieusement, dans ces trois premiers chapitres, il manifeste une minutie étonnante quant à la progression du temps. C'est à partir de Jean qu'il commence les lendemains, une série de lendemains qui vont nous amener à Cana. En 1,29, il dit « Le premier lendemain, Jean voit venir Jésus et dit « Voici l'anneau de Dieu qui baptise dans l'Esprit Saint, il est le Fils de Dieu. » Le second lendemain, Jean est accompagné de 2 disciples dont nous ne connaîtrons pas le nom, si ce n'est un peu plus tard, et fixant sur son regard sur Jésus qui passait, il redit « Voici l'agneau de Dieu ». Et c'est cette affirmation qui détermine les 2 disciples à suivre Jésus par cette belle question. D'abord la question de Jésus, mais que cherchez-vous? Et ils répondent « Où demeures-tu ? » Et ce thème de la demeure de Jésus va rester ouvert pendant tout l'Évangile.
Oui, on ne saura jamais ce qui s'est passé, mais il s'est passé quelque chose dans l'intimité.
Tout à fait.
C'est peut-être important, ça, cette intimité. Hein, nous y reviendrons, d'ailleurs.
Tout à fait.
L'intimité entre Jésus et son Père et l'intimité entre Jésus et ses disciples.
Tout à fait. Alors, un peu plus tard, nous apprenons le nom d'un de ces 2 disciples, c'est André, qui appelle Simon-Pierre, le premier que Jésus va renommer, en l'appelant Képhas. Et puis, le lendemain, Jésus décide de quitter les abords du Jourdain pour regagner la Galilée. C'est là qu'il rencontre Philippe et Nathanaël, et qui a cette première affirmation et cette première autodésignation, « Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme ». Nouveau titre. Nous avons eu l'agneau de Dieu, maintenant le Fils de l'homme. Et c'est 3 jours après, en les additionnant, en partant du témoignage de Jean, en comptant 3 lendemains, nous arrivons à 7 jours, de nouveau, la semaine complète. C'est le 7e jour que l'évangéliste situe ce qu'il appelle le premier signe de Jésus.
Et pour un juif, le 7e jour est un jour important, évidemment.
C'est le jour du sabbat.
Oui, voilà.
Bien sûr.
Voilà. Et puis après, le récit déborde. Nous avons, donc, juste après Cana, la purification du temple.
Mais dans l'épisode de Cana, il y a aussi ce merveilleux dialogue elliptique entre Jésus et sa mère.
Tout à fait.
qui est extraordinaire. La mère de Jésus, c'est elle qui est la première à remarquer la déficience du vin. Le vin qui doit réjouir le cœur de l'homme, il est absent de la fête. Enfin, il est déficient. Et Jésus répond, apparemment, de façon un peu raide, « Femme, que nous importe? En quoi cela nous regarde-t-il ? » Et la mère de Jésus ne se laisse pas démonter. Elle dit simplement « Faites tout ce qu'il vous dira ». Il y a cette étonnante relation faite de silence et de silence et de compréhension entre Jésus et sa mère. Elle va comme anticiper son heure. Il a dit, mon heure n'est pas encore venue, elle persiste. Et elle arrive à ses fins.
Et c'est comme si elle devançait Jésus.
Elle devance l'heure de Jésus.
Donc on peut devancer Dieu ?
Voilà. Ah mais sûrement. Ah mais je crois qu'il faut devancer Dieu. Et Jésus, quelque part dans ses paraboles, dit « N'ayez pas peur de lasser Dieu dans votre prière. Essayez d'user sa patience. »
Ça revient souvent d'ailleurs, oui. Ça. Hein, oui, oui, tout à fait. Et donc, on peut devancer Dieu. Mais alors, il y a cette expression « femme oui. ». Vous voudriez bien revenir là-dessus, je pense.
Écoutez, là, pour moi, c'est une expression étonnante. Donc, Jésus l'emploie en tout cas deux fois à Cana et sur la croix, quand il fait son adieu et qu'il dit « Femme, voilà ton fils ». Et je crois que le mot « femme » ici prend toute sa dimension et toute sa plénitude. En sa mère, Jésus désigne la femme, la nouvelle femme, peut-être la nouvelle Ève. Et vous savez que dans le sumérien ancien, donc qui est antérieur pardon, à l'hébreu, le mot « femme » était lié au mot « vie ». Et que dans l'idéogramme sumérien qui évoque la femme, qui évoque la vie, Ishta, il y a le symbole féminin. Femme et vie sont liées. Et dans le mot Ève, il y a aussi le mot vie. Et je crois que Jésus, en appelant sa mère femme, désigne en elle la plénitude de la féminité et de la maternité.
Et donc Jésus est relié à la fois à cette vie, à cette maternité oui. d'une part, mais aussi à la paternité de son père.
Ah, ça sûrement.
Ce sont deux liens tout à fait complémentaires.
Tout à fait complémentaires.
Tout à fait complémentaires. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que on insiste souvent sur la divinité de Jésus, mais ici on le sent pleinement homme, pleinement relié à sa mère et lui.
Non, mais tout à fait.
Pleinement relié finalement.
Tout à fait. Il est le Fils de Dieu et l'enfant de Marie.
Voilà. Le danger peut-être justement, et en tout cas à l'heure actuelle, c'est probablement d'imaginer que nous ne sommes pas reliés justement à toute notre lignée. Finalement.
Absolument. Ouais, et à notre à ce qui nous relie dans la chair.
Voilà.
Ça je crois. Et c'est capital.
Merci Père José. Nous allons, si vous voulez bien, faire un pas de plus avec Nicodème. Alors là, je vais lire le début du chapitre 3, parce qu'il est intéressant de voir qu'après le verset 13, eh bien, Nicodème disparaît et l'évangéliste continue avec un discours assez théologique. Mais nous n'en sommes pas encore là. D'abord, Nicodème, et il est tout à fait intéressant de voir ici que Nicodème, eh bien, il vient la nuit, et puis il sera beaucoup question ici dans cet épisode d'eau, d'esprit, et puis de vent. Et par trois fois, il sera dit « en vérité, je te le dis ». Nous redécouvrons ce texte dans la traduction de la Tobe. « Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème ». Un des notables juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un maître qui vient de la part de Dieu, car personne ne peut opérer les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme pourrait-il naître s'il est vieux ? Pourrait-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître ? » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, nul, s'il ne naît d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es maître en Israël et tu n'as pas connaissance de ces choses. En vérité, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu et pourtant vous ne recevez pas notre témoignage. Et si vous ne croyez pas lorsque je vous dis les choses de la terre, comment croiriez-vous si je vous disais les choses du ciel ? Car nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. » Ainsi se termine donc le verset 13. Il y a déjà beaucoup à dire, Père José. Ça se passe la nuit.
Oui.
Il y a ici une crainte. Nicodème craint ?
Sûrement. Je ne sais pas si on le dit, mais c'est par peur des Juifs. Mais la figure de Nicodème me paraît intéressante. Ici, elle succède à celle de Jean. Jean, le dernier des prophètes de l'Ancien Testament. Et Nicodème, pour moi, représente un peu l'Ancien Testament qui vient aux Nouvelles, alerté par les signes dont il a déjà perçu le sens, le début du sens, mais encore de nuit. Ce qui est intéressant, c'est que Nicodème vient de nuit et que le discours de Jésus va s'achever sur la lumière. Donc nous passons de la nuit à la lumière. Alors Nicodème est donc un notable parmi les Juifs, un sage, un ancien, un maître. Mais il vient à l'école, il accepte de venir se faire éclairer. Et il est évidemment déconcerté par la première réaction de Jésus. Si vous ne renaissez pas de l'eau et de l'esprit, vous ne pouvez pas voir, percevoir, entrer dans le royaume de Dieu. Et Nicodème, en bon juif, bute sur cette image de la naissance. Lui qui est vieux a l'impression d'être loin de la naissance. Et pourtant Jésus redit ce mot et dit « Si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pouvez pas comprendre le royaume. » Alors, comme Nicodème insiste en disant « Comment est-ce possible ?» Jésus le taquine un peu en disant « Tu te présentes comme un maître, mais tu avoues ton non-savoir. » Mais, et puis, Jésus passe tout de suite alors à cette phrase décisive. « Mais le vent, le souffle, tu entends sa voix, mais tu ne sais, le mot savoir est important, tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de tout qui naît de l'esprit. » Donc, naître de l'esprit, et suppose le déracinement de notre savoir et l'engagement dans un nouvel entendement. Et c'est une phrase extraordinaire. Le vent, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va.
Si vous voulez bien, Père José, oui, nous allons faire une toute petite pause musicale, oui, avec justement cette belle image, cette image de la naissance. On peut penser que le message de Jésus, c'est nous inviter à naître, oui, à nouveau. Et puis, cette grande image du vent, nous allons, oui, y revenir un petit peu. Et la musique que nous allons entendre est la musique de Petr Eben, qui est un compositeur et organiste de la ville de Prague.
Thank you.
Sur RCF, nous continuons notre entretien avec le Père José Willibald Michaud sur le chapitre 3 de l'Évangile de Jean. C'est l'entrevue avec Nicodème. Et juste avant la pause musicale, nous étions arrêtés sur cette belle image de la naissance et l'image du vent. L'image du vent qui souffle où il veut. Père José, il y a encore à dire là-dessus.
Je crois. Pour moi, c'est la plus belle image qui évoque le chemin de la vie spirituelle, de la vie de la foi. Ce déracinement, cette incertitude et ce mouvement qui nous entraîne. C'est une façon de traduire l'image de la naissance, le fait de se laisser déraciner, ouvrir à un monde nouveau et engager dans un chemin de vie. Je crois aussi qu'il a l'idée de liberté. La liberté du vent est très importante et elle doit nous gagner. Nous laisser entraîner par le vent, c'est nous laisser engager dans une forme de liberté. Ça me paraît important. Alors, dans le discours de Jésus, il y a cette allusion à l'écart entre le ciel et la terre. Jésus veut évoquer par là cette distance incommensurable entre les mesures de la terre et celles du ciel. Et il ajoute en disant, mais qui est monté au ciel si ce n'est celui qui en est descendu? Et il ajoute, seul le Fils de l'homme peut réduire cet écart, mais il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et cette phrase me paraît très importante. C'est la première fois que Jean l'emploie, mais il va y revenir plusieurs fois dans son évangile. Il ose ce jeu de mots étrange entre le Fils de l'homme élevé de terre, arraché à la terre par la croix, et l'ascension, la montée au ciel. Et il joue entre... Il ose confondre le Vendredi Saint et l'Ascension. C'est le seul qui ose ce jeu de mots. Et je trouve ça extraordinaire. C'est aussi à partir de là que Jésus évoque l'amour de Dieu. C'est aussi la première fois que le mot amour intervient. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils pour que le monde soit sauvé par lui. Et ce Fils est à la fois l'ouverture, la liberté, la lumière qui donne la vie. Les deux thèmes apparaissent ici, le thème de la lumière. Mais pour y accéder, il nous faut une expression aussi étrange et propre à Jean, il nous faut faire la vérité. Pas seulement l'entendre ou la comprendre, mais la faire, nous engager dedans, nous laisser prendre et emmener, engager par la vérité. Voilà, déracinement, liberté, liberté nouvelle.
Alors il y a aussi un verset sur lequel je voudrais qu'on revienne, c'est le verset 7.
Oui.
Ne t'étonne pas si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. On a souvent l'habitude de présenter Jésus et son message comme une proposition. Mmh. Et ici, il est insistant, il vous faut naître d'en haut. Et puis il parle du vent qui souffle où il veut, etc. Mais il y a cette espèce d'urgence, il vous faut naître d'en haut, un petit peu comme si il y avait une nécessité. Nous ne sommes plus dans la proposition. Sur quel plan sommes-nous ici?
Je rapprocherai cela de cette phrase de Jésus. Et si vous ne redevenez pas comme de petits enfants, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume. Il y a une sorte de choix radical qui seul permet l'accès et l'ouverture, la nouvelle naissance au royaume. Nous ne pouvons pas faire l'économie de ce choix radical, qui est un déchirement, avec sa violence.
C'est ça. Et Moi, ça m'a fait penser au chapitre 30 du Deutéronome où il propose j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie.
Tout à fait.
Avec cette espèce d'urgence.
Tout à fait.
Qui est peut-être l'urgence d'un père ou d'une mère de famille qui dit mais à son enfant, choisis la vie.
C'est ça. Et nous ne pouvons pas faire l'économie de la radicalité de ce choix. Le mot de radicalité est pour moi capital.
Voilà deux fois que nous l'utilisons dans ces deux dernières émissions, radicalité et tendresse. Oui. Et peut-être que le message de Jésus et le personnage de Jésus est profondément paradoxal.
Oui, il fusionne ces deux dimensions, la radicalité et la tendresse, oui.
Au fond, nous avons une mentalité très logique, nous opposons les choses, alors qu'en fait, elles coexistent. Je pense que nous sommes vraiment dans la perspective des Juifs qui aimaient beaucoup, non pas opposer par exemple le corps et l'esprit, mais disaient qu'il fallait harmoniser le cœur, la langue et la main. Il y a des travaux là-dessus.
Oui.
Et donc, on va vers l'harmonisation et non pas l'opposition.
Tout à fait. Tout à fait. Nous ne pouvons pas faire l'économie de ce choix radical. Mais qui est en même temps libération et nouvelle naissance. Et ouverture et lumière. Et vie.
Et je pense que ce qui est important dans ce que vous êtes en train de dire, c'est le « et », c'est le petit « et ». C'est radicalité et tendresse, c'est lumière et vie. Peut-être une des grandes forces du message de Jésus est là, sans doute.
Oui, absolument.
Voilà. Merci Père José, nous en avons terminé pour aujourd'hui. Nous allons continuer évidemment dans 15 jours à approfondir ce discours qui suit l'entrevue avec Nicodème. Et juste après, nous retrouverons Jean le Baptiste. Et puis nous arrivons tout doucement à cette scène lumineuse que vous aimez bien d'ailleurs, qui est la scène, l'entretien avec la Samaritaine.
D'accord.
Merci beaucoup Père José, à très bientôt.
Merci pour vous. Votre écoute créatrice.
Merci, merci beaucoup et avec grand plaisir.